Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, le regard de Radio Intégration sur les dimensions spatio-temporelles auxquelles s'attachent les réalités économiques d'Afrique centrale. Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Une réflexion sur la nature et la portée des interactions, les conditions de leur efficacité, ainsi que les défis qu'elles soulèvent dans la sous-région.
Tendance d'aujourd'hui et de demain.
C'est votre émission sur les prévisions, planification des ressources, telles qu'élaborées par les grands et petits acteurs. 52 minutes pour exposer et comprendre les environnements où s'opèrent les choix décisionnels qui engagent l'Afrique centrale.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'est sur Radio Intégration.
Suivez Radio Intégration sur Facebook,
X,
Instagram,
YouTube.
Un jour, une nouvelle édition de Tendance d'aujourd'hui et de demain sur votre radio. Monsieur Josué Nabral à la technique, au micro Joël Effa
et Jean-René Mevamogou.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, l'émission décrypte les faits, les chiffres de l'économie et ses coulisses. Elle apporte quelques éléments additionnels sur les développements théoriques, statistiques et économétriques les plus récents dans le contexte d'Afrique centrale. Et ce dans le but de rendre accessibles certains des thèmes centraux de l'actualité économique. Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'est 52 minutes divisées en trois grandes parties.
Les grands tableaux, c'est la première partie. Au menu de celle-ci, le code minier communautaire CEMAC, on évoquera la reprise des discussions à Brazzaville. L'offre énergétique au Cameroun, avec ses lumières éteintes d'espoir qui viennent de Natigal. Toujours dans les grands tableaux, on fera un tour au Gabon. Le pays veut en finir avec les importations alimentaires. En seconde partie, intitulée « Grande surface », nous descendrons au secteur oignon au marché 8e à Yaoundé. Et puis, nous parlerons des huiles végétales. De graves menaces pèsent à nouveau sur la filière camerounaise. En dernière partie, on aura un invité. Il s'agit de Matiyem Kadio. Il est documentaliste, président de l'Association des professionnels de l'information documentaire du Cameroun pour l'Afrique, en abrégé APITCA. Il viendra nous parler des contours de l'atelier sur le thème « Notion générale de propriété intellectuelle et utilisation des portails électroniques d'information » prévus les 30 et 31 mai 2024 à Yaoundé.
Code minier communautaire, CEMAC, reprise des discussions à Brazzaville. Les membres du comité technique et experts sont réunis depuis le 14 mai 2024 dans la capitale congolaise. L'atelier régional de lancement des travaux techniques de poursuite de l'élaboration du code minier communautaire qui se poursuit jusqu'au 18 mai est l'occasion de redynamiser le comité ad hoc mis en place fin janvier dernier, Joël Effa.
Les discussions autour du futur code minier communautaire ont repris depuis le 14 mai 2024 à Brazzaville au Congo. Il s'agit, précise des sources bien introduites, des discussions portant sur l'esquisse du texte communautaire décliné en 7 titres et 17 chapitres pour un ensemble de 391 articles, traite de toutes les thématiques liées aux politiques minières, au régime fiscal et douanier, aux obligations sociales et environnementales. Intervenant sur Télé-Congo le 14 mai 2024, Cyril Nzolamo Nzilavo, le président du comité ad hoc chargé d'examiner cette esquisse, a indiqué que le projet de code minier communautaire propose, entre autres, la création d'un cadre et des conditions favorables à l'attraction d'investissements extérieure et surtout l'optimisation d'impact du secteur sur le niveau de vie de la population. Le document comporte aussi des règles de procédure visant à obtenir plus de transparence et de participation de toutes les parties prenantes. Il s'agit d'informer les autorités locales du périmètre de toutes les décisions d'octroi des droits et titres miniers, de faciliter l'accès à la documentation des opérateurs économiques. Élaboré selon la vision minière africaine de 2009, le code minier de la CEMAC expliquant assurera la codification harmonisée des législations minières nationales dans le but de favoriser les investissements dans la transparence du secteur concerné, y compris la possibilité d'un cadre attractif d'investissement en garantissant la visibilité et la traçabilité du secteur. Les experts réunis à Brazzaville disposent d'un délai d'une année pour pouvoir rendre leur copie de projet de code, c'est-à-dire d'ici à juin 2025.
Il faut relever à votre suite, Joël Effa, que depuis 2017, l'équipe d'experts désignée pour l'étude a réalisé une analyse comparative des législations nationales qui prend en compte les cadres institutionnels et législatifs, les régimes miniers et fiscaux, les obligations sociales et environnementales et autres aspects fondamentaux des pays de la CEMAC. Les résultats de cette analyse préliminaire ont fait l'objet de discussions avec les délégués de la commission de la CEMAC et des États membres et ont servi et ont ensuite servi de base pour l'élaboration d'une esquisse de code minier pour la CEMAC. L'étude de l'élaboration du code minier communautaire pour les 6 États de la CEMAC a été lancé en mai 2016. Offre énergétique au Cameroun. Ces lumières éteintes d'espoir qui viennent de Nachtigal, la finalisation et la mise en service commerciale de cette centrale en 2024 induira significativement une augmentation de l'offre en énergie électrique dans le système électrique national au Cameroun, avec pour corollaire l'amélioration du service public de l'électricité. Synchroniser les paramètres électriques de l'alternateur du groupe numéro 1 de Nachtigal à ceux du réseau interconnecté sud, fermer le disjoncteur qui connecte le groupe au réseau de transport de la Société nationale de transport d'électricité, marquer ainsi leur couplage et la fourniture au réseau des premiers mégawatts, voilà qui font percer une pointe de satisfaction chez les consommateurs d'énergie électrique au Cameroun. Pour le dire, le 10 mai 2024 à Nachtigal, le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie a eu le verbe facile. En prenant la parole, Gaston Elundu Esomba a fait le portrait d'une forêt qui a pu se transformer en 5 années seulement en une imposante infrastructure de production d'électricité dont la valeur marchande, technique et environnementale est avérée. Et pour balayer ce que certains esprits avaient vite fait de convertir en illusion politique, le ministre de l'eau et de l'énergie a fait savoir une chose, l'injection dans le réseau des tout premiers mégawatts du barrage hydroélectrique de Nachtigal et la concrétisation dans les faits de la promesse du président de la République pour qui l'accès à l'électricité est et demeure une préoccupation permanente. C'est donc un moment historique pour le secteur de l'électricité, mais davantage une fierté pour le Cameroun, car il marque l'entrée en production du deuxième plus grand aménagement hydroélectrique d'Afrique centrale. Le scénario a été possible au terme d'un ensemble de travaux et d'essais qui se sont avérés concluants et sanctionnés par des certificats émis par les experts commis à cet effet.
De là, il faut comprendre que les travaux ont pris du temps. Démarrés en février 2019, ils sont aujourd'hui quasiment achevés avec un taux d'avancement de 94% selon Vincent Leroux, directeur général de Nachtigal Hydro Power Company. La finalisation et la mise en service commerciale de cette centrale en 2024 induira significativement une augmentation de l'offre en énergie électrique dans le système électrique national, avec pour corollaire l'amélioration du service public de l'électricité. Ainsi, la mise en service des 6 autres groupes se fera progressivement à la cadence d'un groupe de 60 MW chaque mois, dans la perspective d'une mise en service commerciale de la centrale en 2024. À cette date, Martel Lominé, toutes les capacités de production seront installées et mises en service. La centrale fournira une puissance de 420 MW dans le réseau interconnecté sud, faisant ainsi de Natchigal la centrale électrique la plus puissante du Cameroun.
Il apparaît donc évident que l'entrée en service de cet important ouvrage est une opportunité pour le Cameroun, dans la mesure où il permettra d'améliorer la qualité de service des réseaux d'électricité, mais davantage de booster les investissements et par ricochet d'impulser l'essor économique par le biais de l'industrialisation. À cet effet, le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, a mis en place un plan d'action prioritaire 2024-2026 ayant pour objectif principal l'absorption optimale de l'énergie de Natchigal. Il s'agit des investissements en distribution qui seront principalement orientés vers le remplacement des unités neuves de comptage dans l'optique de réduire la fraude et d'augmenter les recouvrements auprès des clients. Il n'est pas inutile de relever que dans un avenir proche, l'énergie produite par le barrage de Natchigal sera également évacuée vers la partie septentrionale du Cameroun à travers l'interconnexion du réseau interconnecté sud et du réseau interconnecté nord. Cette interconnexion permettra au Cameroun d'avoir un réseau unique, ce qui permettra aux régions septentrionales de bénéficier de la production des ouvrages construits dans le réseau interconnecté sud. Écoutons à ce sujet le ministre Gaston Elundu Esomba, ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, au micro de nos confrères de la CRTV.
Monsieur le ministre, merci de répondre aux questions de la CRTV Poste National. Depuis ce matin, lors de la cérémonie de mise en service de cette importante infrastructure, votre sourire ne vous a pas quitté. On peut savoir ce que cela représente pour vous aujourd'hui?
Merci beaucoup. Alors, pourquoi je souris? Vous voyez bien, tous les jours, les ménages se plaignent, les industries se plaignent. Il y a des délestages, il y a des coupures d'électricité. Il y en a qui utilisent même le mot de coupure et le qualifient d'intempestif d'énergie. Alors, pourquoi il y a des coupures? L'une des principales raisons, c'est le déficit de production. Parce qu'aujourd'hui, la production est largement inférieure à la demande des ménages, des industries. Alors, pourquoi je souris? Je souris parce qu'on est en train d'apporter une solution. Le chef de l'État, en instruisant le développement du barrage de Natchigal, c'est vraiment pour pallier cette carence et pour pallier ce déficit. Alors, l'arrivée de Natchigal, qui va couvrir au moins 30% des demandes, va réduire substantiellement. Je préfère dire les choses ainsi parce qu'il y a toujours des aléas techniques. Donc, ça va réduire substantiellement les délestages que subissent les ménages, les industries. Vous voyez donc que l'arrivée de Natchigal va améliorer la qualité de l'énergie, elle sera beaucoup plus stable. Et au niveau des industries, il faut bien le dire, moi j'étais à Douala il y a 2 mois, j'ai discuté avec Logicam, et se plaint, il y en a qui arrêtaient même de produire, et ceux qui produisent à partir des groupes, ça augmente leur coût de production avec des risques d'incidence sur les prix, sur le marché. Donc Natchigal va donc venir couvrir cette demande et deviendra sans doute un vecteur de croissance de notre économie.
60 premiers mégawatts ont été injectés aujourd'hui. Vous avez annoncé la fin des travaux pour décembre 2024. Pouvez-vous donner l'assurance aux populations qui nous écoutent que ça sera bien effectif?
Oui, cette fois-ci, nous pensons que toutes les conditions sont réunies. On avait avancé des dates, mais au moment où on voulait démarrer le barrage, il y avait quand même des problèmes avec la programmation, parce que c'était des programmes informatiques pour l'automate qui gère toutes les commandes des groupes. Il fallait bien revisiter ce programme, ça a pris du temps. Maintenant que le programme est opérationnel, et c'est le même même programme pour tous les groupes. Toutes les machines sont là, les installateurs sont là, c'est ceux qui ont installé le premier groupe et qui sont en train de continuer. Donc techniquement sur le terrain, ils nous rassurent qu'il n'y a plus de risque de décalage du calendrier qui est avancé. Alors ce qui va se passer, c'est que chaque mois, on va mettre en service un groupe supplémentaire de manière à ce qu'au plus tard en décembre, qu'on procède à la mise en service commerciale. Ça veut dire que toutes les 7 groupes réceptionnés et mises en production.
L'énergie en plus et les factures en moins.
Les factures, alors pourquoi les factures en moins? Natural produit à 42 francs CFA le kilowattheure, donc il faut bien savoir que l'État du Cameroun continue à subventionner. L'État subventionne beaucoup l'énergie aujourd'hui. Natural va donc permettre d'abord de réduire l'enveloppe de la subvention, parce que il faut des espaces budgétaires au niveau de l'État pour faire des investissements. Nous voulons des routes, nous voulons de l'eau, nous voulons des lignes de transport, nous voulons des écoles, mais il faut bien qu'il y ait des ressources. Alors si toutes les ressources doivent être concentrées ou bien orientées vers les subventions, vous voyez bien que les investissements structurants dans les secteurs sociaux n'auront pas lieu. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut donc savoir, c'est que Natural qui va permettre de changer le mix énergétique, parce que quand on produit 20% à partir des sources fossiles. 20% de notre énergie provient des sources fossiles. Le kilowattheure qui est produit à partir des sources fossiles, c'est pratiquement 200 francs CFA. Pendant ce temps-là, les ménages payent en moyenne 50 francs CFA le kilowattheure. Les ménages qui sont qui consomment moins payent 50 francs CFA le kilowattheure. Vous voyez bien cet écart-là, c'est 150 francs CFA. C'est ça la compensation tarifaire que l'État paye. Donc, Natural va donc permettre de changer ce mix énergétique et permettre à l'État de réduire substantiellement la subvention, et ces économies-là pourront être orientées vers d'autres secteurs qui en ont le plus besoin.
Que pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, au sujet du projet PIPIS qui a un lien direct avec le barrage de Natigal?
Alors, pour le PIPIS, les travaux ont atteint 100% il y a quelques semaines. Donc, on est passé au test. Nous avons de manière provisoire fait une connexion, on appelle ça bypass, pour que les tests commencent du côté de Bachenga. Les tests sont en cours. Mais avec cette injection, on a demandé aux équipes de la Sonatrel de finaliser les travaux de connexion de la ligne qui sera appelée à alimenter PIPIS. Et dès que les tests s'achèvent, vous verrez certainement une autre série de mise en service du PIPIS bientôt.
Un dernier mot avant de nous quitter.
Et tout simplement rassurer les populations camerounaises que la ferme volonté du chef de l'État, et si on souvient ses discours, il a dit dans l'énergie aujourd'hui est une question nationale. Vous avez vu la présence du ministre des Finances, vous avez vu la présence du ministre en charge des investissements publics. C'est pour dire toute l'importance et toute la valeur que les uns et les autres accordent à l'énergie. Les problèmes sont réels. Les problèmes, il y en a presque partout. Il faut voir chez nos voisins, mais nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour améliorer la qualité du service de l'électricité. Il y a certainement des problèmes avec Eneo et les instructions sont en train d'être données dans ce sens-là pour que les choses changent dans un avenir très proche. L'énergie, on a produit beaucoup plus et les ménages en auront une énergie de bonne qualité et de manière continue.
Au Gabon, l'on veut en finir avec la dépendance alimentaire. Le Conseil des ministres du 14 mai 2024 a décidé de dissoudre la Sotrader, société de transformation agricole et de développement rural créée par l'ancien président Ali Bongo, et de mettre en place la Société pour l'agriculture et l'élevage du Gabon, qui se chargera de sortir le Gabon de la dépendance alimentaire.
Le Conseil a approuvé la création de la Société pour l'agriculture et l'élevage du Gabon, conformément aux directives du président de la transition, indique le communiqué final du Conseil des ministres. D'après Gabon Echo, dans son édition du 15 mai 2024, cette nouvelle société qui succède à la Socrader SA a pour objectif de dynamiser les secteurs de l'agriculture et de l'élevage au Gabon. Le média gabonais souligne que la prochaine étape concernera la relance de la production agricole. Le gouvernement a ainsi décidé de réquisitionner les fermes de Ntoum, Franceville, Okoloville, Les Bamba, Oyem et Port-Gentil. Le budget qui sera mis en place pour relancer ces fermes n'est pas encore connu. Le gouvernement affiche cependant une ferme volonté de sortir le pays de la dépendance alimentaire. Libreville consacre chaque année plusieurs milliards de francs CFA pour importer les produits alimentaires.
Fire! France d'aujourd'hui et de demain, les grandes surfaces.
Huile végétale au Cameroun. À la faveur d'une décision prise en mars dernier par les services du Premier ministre, instruisant le ministre du Commerce de lever l'interdiction pesant sur les produits de qualité douteuse, eh bien, le secteur est à nouveau infesté par des acteurs aux pratiques anticoncurrentielles. Ces huiles en vrac sont parfois recyclées après usage, exposant à des risques de maladies cancérigènes.
De graves menaces se pèsent à nouveau sur la filière camerounaise des huiles végétales raffinées. Elles font suite à une mesure prise en mars dernier par les services du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Nguté, instruisant le ministre du Commerce à lever l'interdiction des huiles en vrac sur l'étendue du territoire camerounais. Écoutons quelques usagers rencontrés à Yaoundé.
C'est pas facile, le vent nous aide beaucoup. Moi, je vois pas pourquoi ils ont interdit ça. Je sais pas quel effet ça avait sur les gens, vu que ça nous rapportait moins. Parce que tu avais mis tes 250, tu achetais l'huile. Mais aujourd'hui, je me retrouve en train d'acheter une bouteille d'huile à 2000. Ce n'est pas évident. Moi, je fais dans le plat à combien, 500, donc je n'en sors même plus. Tu achètes une bouteille d'huile à 2000, tu fais un repas avec. Il y a les jours, je prends même parfois une bouteille et demi, je sors, je n'en sors pas.
Oui, nous, les ménagers, maintenant, il faut beaucoup parce que si monsieur te raconte 3000 par la maison, comment est-ce que tu vas faire pour acheter des huiles pour ta vie? Donc, ça coûte énormément cher. Et si j'ai des mis maintenant, c'est 2000, on a mis 600. Donc, du coup, nous avons. C'est très compliqué à la maison maintenant, nous qui avons beaucoup de familles. Donc, c'est un peu ça, nous, les ménagers, on fait
beaucoup. Plus de 1000, franchement, cher. Quand eux ici voient comment ils vont faire les rabais sur le marché, qui pensent aussi qu'il y a aussi restauratrices qui vendent les plats au prix bas. Comme nous, si on va à 500, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort vraiment pas. Donc, vraiment, que maintenant, on voit vraiment le problème là. Ce n'est même pas seulement nous, les restauratrices, c'est aussi les pauvres.
Sur le marché, il y a plusieurs huiles. Hein. Souvent, il y a des odeurs, on ne peut pas manger ça frais.
Des huiles au marché, bon, je ne sais pas, souvent les femmes mélangent avec du beurre de karité et tout ça là. Donc moi, je préfère m'approvisionner dans un supermarché.
Je ne m'arrive jamais de faire huile au marché parce que ce n'est pas 100% naturel.
Face aux constatations des manquements à l'observation rigoureuse de cette norme, le ministre du Commerce avait, dans sa correspondance du 19 septembre 2023, invité les promoteurs d'industrie de transformation de l'huile de palme à respecter la réglementation en vigueur qui interdit la commercialisation des huiles en vrac, non étiquetées, non traçables et par conséquent non conformes à la norme NC77-2002-03-REV.1 de 2011 relative aux huiles végétales portant un nom spécifique enrichi à la vitamine A. Quelques mois auparavant, la Nord déplorait, pour sa part, la prolifération sur le marché des huiles en vrac, le non-respect des normes en vigueur dans le secteur, ainsi que la difficile traçabilité des productions écoulées sur le marché camerounais. Toute chose qui expose les consommateurs à des risques sanitaires graves. Surtout que ces huiles en vrac sont parfois recyclées après usage, exposant à des risques de maladies cancérigènes. Aussi, l'institution de normalisation invitait-elle les acteurs de la filière à se présenter sans délai dans ses services en vue de faire certifier leurs produits. Docteur Charles Mbatoumou, nutritionniste à Yaoundé.
Effectivement, nous constatons qu'il y a des huiles qui n'ont pas véritablement d'emballage. Le conditionnement est douteux, la provenance est douteuse. Et nous déconseillons formellement, fortement ces huiles à nos patients. Parce que en consommant ces huiles, nous nous exposons à des intoxications, à des maladies cardiovasculaires, à des problèmes de surpoids, d'obésité, de diabète, même de certains types de cancers. Donc nous conseillons véritablement de consommer des huiles autorisées par le gouvernement, des huiles connues de tous ici, sans cholestérol. Nous disons aux populations simplement que c'est comme un véhicule. Si vous mettez du bon carburant dans votre véhicule, il ira loin. Si vous mettez du mauvais carburant, il n'ira pas loin. C'est comme ça. Si vous voulez prolonger votre espérance de vie, il faut faire attention aux huiles que vous consommez.
Thank you. Cap sur le marché 8e, au lieu de la filière oignon au Cameroun et en Afrique centrale. Nous y sommes allés et nous sommes allés à la rencontre de quelques acteurs de cet espace commercial. Choses entendues sur place.
Depuis le début de l'année 2001, ici, il n'y avait pas encore un grand marché. Le marché 8e existait, certes, mais c'était juste quelques petits magasins de friperies, pour garder les friperies. Bon, entre-temps, lorsqu'on refaisait le marché de Mokolo, on a renvoyé parce que le marché d'oignons était situé au marché de charbon à Mokolo. On les a renvoyés ici au 8e. C'est ainsi que le marché s'est étendu, comme vous voyez. Ça a pris de l'ampleur, de l'espace et c'est devenu l'un des plus grands marchés de Yaoundé. Pendant la période des oignons, donc il faut généralement de janvier à mai, il y a des moments où on peut trouver près de plus de 20 camions et des plateaux pleins d'oignons qui arrivent.
Je fais mon marché une fois deux semaines. Je préfère venir chercher ici.
Nous déchargeons les camions et puis nous commençons la vente. Et le marché de Yaoundé, 8e, c'est le fief de Zoyon, je peux dire sous-région, mais l'Afrique centrale. Nous approvisionnons les villes voisines et voire les pays voisins tels que le Gabon, la Guinée, le Congo.
En dehors de la ville de Yaoundé, les villes environnantes, les pays de la sous-région, en l'occurrence le Gabon, la Guinée, le Congo, s'approvisionnent à Yaoundé.
En cette saison, je vais dire les années passées, ça devait être entre 20 et 25 000, mais comme la saison n'a pas été bonne cette année, voilà pourquoi nous les vendons un peu cher, parce que la demande est plus élevée que l'offre. Ça n'a pas produit.
Tout de suite, là, je vais acheter des oignons de 6 000. Hein. Je voulais acheter au moins pour 4 000, mais c'est vraiment insuffisant parce que les oignons sont devenus trop chers. Trop chers. Tu n'en trouves même pas. C'est pas seulement les oignons, hein. L'ail, c'est terrible.
Nous nous retrouvons en train de vendre le sac d'oignons à 65-70 000. Parce que la saison n'a pas été du tout bonne. Vous-même, vous constatez, tout le Grand Nord a eu des problèmes de pluie en saison de pluie. Au lieu de 3 mois de pluie, nous nous sommes retrouvés à 4 mois et demi de pluie, ce qui a causé les dégâts. Et puis la production n'a pas du tout donné. S'il ne faut pas des difficultés, c'est les tracasseries routières, que les contrôles douaniers, alors que nous les produisons au Cameroun. Et puis peut-être l'état de la route. Le camion devait livrer la marchandise partant de Maroua pour Yaoundé en 3 jours, mais nous nous retrouvons peut-être à 5-6 jours. Bah, les routes ne sont pas praticables.
Mm-hmm. Nanga, Nyaye ne Kongo, Adikom, Lam Lam Boutou, Asiwe, Lebe Boutilou, Jomani, Elimbadika, Loyaka, Amirudo, Osito, Minenge, Among of we went, oh, go, 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 go,
Nous laissons à l'invité le soin de se présenter. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Meva Mogou. Bonjour à tous les fidèles auditeurs de Radio Intégration.
On a besoin de votre carte de visite.
Ah, ma carte de visite, en fait, là, c'est très simple. Je m'appelle Mathieu Mkadio, ingénieur documentaire. Je me fais dit documentaliste, diplômé de conjointement de l'Université de Tchang et de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, dont je... Et parallèlement, à côté du documentaliste, je suis président en exercice d'une corporation professionnelle APK, Association des professionnels de l'information documentée du Cameroun pour l'Afrique, une organisation, une corporation qui regroupe les archivistes, les bibliothécaires, les documentalistes et les muséographes. Donc, voilà.
Voilà, du beau monde derrière vous. Quel est votre quotidien, le quotidien du président que vous êtes?
Ah, le quotidien du président, c'est, il fait trois choses au quotidien, dont au niveau de l'association, dont l'association, c'est l'accompagnement. Voilà, l'accompagnement dans, les différentes personnes qui veulent s'investir dans le domaine de l'information documentée, que ce soit les étudiants ou les personnes morales. Et la deuxième des choses que le président fait au quotidien, c'est les formations initiales et continues. Formations initiales et continues dans le domaine des archives, dans le domaine des bibliothèques et dans le domaine des musées. Et enfin, dans la publication scientifique, puisque même ce que nous faisons ici, ça entre toujours dans ce cadre-là, dans la publication scientifique à travers les activités de vulgarisation, dans notre magazine DocuMac sur les métiers de l'information documentaire.
Du temps au 31 mai prochain, vous organisez à Yaoundé un atelier sur le thème notion générale de propriété intellectuelle et utilisation des portails électroniques d'information. De quoi s'agit-il concrètement?
Il s'agit d'un atelier de formation co-organisé par l'Association des professionnels de l'information documentaire du Cameroun pour l'Afrique, APITCA, avec le CNDT, le Comité national du développement des technologies et structures du Minerésie, et qui vise à outiller les participants sur les notions générales de propriété intellectuelle, comment les exploiter. Non, on entend par propriété intellectuelle le droit de protection de la créativité, de l'invention, surtout les domaines de la vie, notamment dans le domaine de l'intérêt artistique et dans le domaine de l'industrie. Et donc, question d'outiller tous les participants ce jour-là sur ces notions et aussi comment exploiter, c'est toute cette deuxième partie qui est la plus importante, comment faire des recherches dans les bases de données de propriété intellectuelle. Donc, voilà les objectifs, du moins voilà l'objectif principal. À côté de cela aussi, il y a question de sensibiliser sur les procédures, voilà, comment protéger sa recherche ou son innovation. Quelles sont les procédures, du moins, de protection de ces documents au sein de structures comme l'OAP, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Donc, et voilà autant de choses que nous allons partager ce jour-là avec les participants.
Oui, vous parlez de participants. Qui est attendu à cet atelier?
Nous avons trois catégories de cibles. La première cible, ce sont les étudiants, les chercheurs, les enseignants d'université, donc qui sont les plus concernés, puisque nous, en tant que documentalistes, notre travail au quotidien, c'est de faciliter l'accès à l'information. Et il n'y a pas de recherche sans accès à l'information. Il n'y a pas de recherche sans accès à l'information. Bon, ça, c'est les enseignants et les chercheurs. Ils ont besoin, c'est-à-dire que nous parlons d'enseignants-chercheurs. Il s'agit des enseignants du domaine de la médecine. Oui, puisque nous allons travailler une bonne partie sur la base de données du programme Research for Life, RF for Life, et de Patentscope, c'est une base de données des brevets à l'échelle internationale. Et à côté des médecins, nous avons les juristes qui sont largement intéressés par cet atelier de formation. À côté des juristes, nous avons tous ceux qui font dans la technologie. Voilà, les chimistes, les physiciens, les mathématiciens qui font dans l'invention, les polytechniciens. Et voilà, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est les documentalistes. Les documentalistes que nous sommes, étant donné que, en tant que documentalistes, nous maîtrisons les outils et les techniques pour faciliter les recherches dans ces bases de données. Il est question d'outiller les participants ce jour-là et les documentalistes pour leur expliquer comment ça fonctionne et comment est-ce qu'ils peuvent faire pour mieux servir les usagers. Enfin, une troisième catégorie, c'est toute personne qui est intéressée, c'est-à-dire les ingénieurs, ceux qui, effectivement, ont des œuvres à protéger. Voilà, au Cameroun, il faut se dire que nous voyons tout ce qui se fait au quotidien, nous voyons comment des gens perdent du temps dans la recherche de l'information. Les gens prennent parfois des années pour arriver à une invention, pourtant tout a déjà été fait dans ce domaine. Il serait juste question d'avoir accès à une copie de brevets qui sont d'ailleurs libres. Il y a beaucoup de brevets d'invention qui sont déjà mis dans le domaine public, et qui suffisait pour un jeune, pour un chercheur d'avoir accès à ce brevet-là. Et voilà, il a du coup une part de son invention déjà réalisée. Et ça va vraiment aller si vite que de sombrer dans la débrouillardise ou dans ce que nous voyons un peu souvent dans les réseaux sociaux.
Est-ce que vous pensez que vous répondez à un besoin ou alors réveillez juste une problématique qui vous semblait endormie?
Oui, ça c'est très important. Nous répondons à un besoin. D'une part, nous répondons à un besoin. D'autre part, il y a naturellement l'actualité. Voilà. Le besoin, c'est quoi? Le besoin, c'est celui-ci. À savoir, toutes les propriétés intellectuelles. Tout ce que nous faisons au quotidien, c'est la propriété intellectuelle. Le micro est une propriété intellectuelle. Le casque que j'ai ici, c'est une propriété intellectuelle. Le téléphone que nous avons, c'est une propriété intellectuelle. Il en va même, voilà. Donc, il est question d'abord d'expliquer aux gens c'est quoi la propriété intellectuelle, comment les gens peuvent vivre. Des gens font énormément de choses au quotidien et ils peuvent vivre de la propriété intellectuelle. Et il est question d'abord de les outiller. Voilà. Pour éviter, on voit ce qui se passe dans le domaine musical, comment les artistes s'entre-déchirent. On voit également des jeunes qui, des start-upers, qui font des produits, mais ces produits restent à l'échelle locale, ne parviennent pas à traverser les frontières. Et au Cameroun ou en Afrique en général, nous avons beaucoup de potentialités, que ça soit dans le domaine artistique, que ça soit dans le domaine, aujourd'hui on parle de la protection génétique. Donc il y a tellement, nous faisons tellement d'inventions aujourd'hui, les gens viennent même s'approprier des choses en Afrique, que ça soit au niveau de des matières premières ou au niveau de des connaissances traditionnelles et autres, et pas te les transformer, ils viennent nous revendre. Or, nous pouvons aussi le faire sur place. Il est d'abord question de vraiment de sensibiliser ce beau monde-là. Et nous pensons que nous allons atteindre cet objectif. Le deuxième côté, c'est l'actualité. Le mois de chaque 26 avril, se célèbre la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Il y avait le CNDT, donc c'était un partenariat. Il a fallu trouver le juste moment ou la bonne date. Nous avons donc préféré mettre ça en fin du mois de mai. Le 30 au 31 mai, le 26 avril de chaque année, c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Et voilà, en faisant avec le CNDT, qui est une structure du MINRISI, du ministère de la recherche scientifique et de l'innovation, donc nous sommes en pleine activité ou en pleine mission d'accompagnement du ministère de la recherche scientifique dans ce sens-là.
Voilà, cela veut dire que les pouvoirs publics sont à vos côtés. Et en termes d'expertise, qu'est-ce que vous avez mobilisé comme expert?
Nous avons la chance d'avoir un documentaliste qui a une double casquette. Il est documentaliste, monsieur, il faut déjà dire son nom, c'est monsieur José Tetantunda. Il est documentaliste de la promotion 95 de l'Est qui sont à l'écoute, se reconnaissent tout le monde. Et il, en même temps, il s'est orienté dans la propriété intellectuelle. Donc, et voilà, je voudrais pas, vous pouvez avoir, c'est au TDR, au thème de référence de la téléformation, vous allez retrouver tout un descriptif en ce qui concerne cet esprit formateur. À côté de l'expert formateur, ou du moins le formateur principal, il sera accompagné naturellement de, j'ai la chance d'être à ses côtés, que je sois à ses côtés ce jour-là. Ma modeste personne, je suis ingénieur documentaire du niveau de l'ESTIC, spécialité information scientifique et technique. Ça, c'est au niveau de la recherche, l'information scientifique et technique. Et l'information scientifique et technique, pour que ça reste pas très vague, c'est l'information contenue dans les brevets d'invention, justement. Donc, l'information, les tests, les mémoires, les rapports. C'est-à-dire, c'est toutes ces informations scientifiques bien élaborées qui ont suivi des canaux et qui sont mises à la disposition des industriels ou des chercheurs. C'est ça l'information scientifique et technique. Et à côté, il y a le personnel du MINRISI, dont le docteur Malamba, le secrétaire permanent du Comité national de développement des technologies, il sera présent avec nous, avec tout son staff, le staff du MINRISI, dont on va certainement découvrir d'autres questions. Donc voilà les trois personnes déjà en tête d'affiche de cet atelier, l'expert formateur. Le président de la PITCA, ingénieur documentaire spécialiste de l'IST que je suis, et le secrétaire permanent, le docteur Madame Baquet, lui aussi est un grand expert dans la propriété intellectuelle certifié de...
Merci d'être passé par ici. Je rappelle que vous, c'est monsieur Matiyem Kadio. Vous êtes documentaliste, président de l'Association des professionnels de l'information documentaire du Cameroun pour l'Afrique, en abrégé APITCA, c'est ça bien cela?
Hein? Et parfaitement.
Voilà, merci d'être passé par ici. C'est vous qui organisez l'atelier, ou alors vous êtes l'un des maîtres d'œuvre de l'atelier articulé sur le thème notion générale de propriété intellectuelle et utilisation des portails électroniques. Ce sera, vous avez dit, à Yaoundé, précisément où?
Au CNDT, très important. Au siège du Comité national de développement des technologies, c'est situé au ministère de la recherche scientifique au MINRISI. Pour ceux qui sont à Yaoundé, on parle généralement de Montéco normal. Oui, Montéco normal, les gens se connaissent plus facilement par là. Okay. Ou encore la montée Enam.
Merci, monsieur.
Je vous en prie. Merci à vous.
C'est avec notre invité que Tendance d'aujourd'hui et de demain rentre en gare. Tendance d'aujourd'hui et de demain avait au menu le code des miniers communautaires CEMAC avec la reprise des discussions à Brazzaville. Nous avons également évoqué l'offre énergétique au Cameroun avec ses lumières et teintes d'espoir qui viennent de Nactigal. En grand tableau, on a fait un tour au Gabon. C'était également dans la première partie. On a fait un tour au Gabon. Le pays qui veut en finir avec les importations alimentaires en seconde partie intitulée Grande Surface. Nous sommes allés au marché 8e dans le secteur oignon. Et puis nous avons parlé des huiles végétales, la filière qui est à nouveau sous de graves menaces. du fait de la filière qui est sous le coup d'une grave concurrence déloyale des huiles vrac, entre guillemets. Et puis, nous avons comme invité Monsieur Matiyen Kadio. Il est documentaliste, président de l'Association des professionnels de l'information documentaire du Cameroun pour l'Afrique. Il est venu nous parler des contours de l'atelier qu'il organise du 30 au 31 mai 2024 à Yaoundé. L'atelier est articulé autour du thème « Notion générale de propriété intellectuelle et utilisation des portails électroniques. Tendance d'aujourd'hui et de demain » à la technique. Il y avait Josué Nabral. Il y avait également
Joël Effa
et Jean-René Mevamougou.
Restez connectés sur nos différentes plateformes en ligne, notamment notre site internet au www.radiointégration.com et sur toutes nos pages et différents comptes Facebook et Instagram Radio Intégration. Ravi de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À la prochaine édition, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, le regard de Radio Intégration sur les dimensions spatio-temporelles auxquelles s'attachent les réalités économiques d'Afrique centrale. Tendance d'aujourd'hui et de demain.
Une réflexion sur la nature et la portée des interactions, les conditions de leur efficacité ainsi que les défis qu'elles soulèvent dans la sous-région.
Tendance d'aujourd'hui et de demain.
C'est votre émission sur les prévisions, planification des ressources telles qu'élaborées par les grands et petits acteurs. 52 minutes pour exposer et comprendre les environnements où s'opèrent les choix décisionnels qui engagent l'Afrique centrale.
Tendance d'aujourd'hui et de demain, c'est sur Radio Intégration.